Mais voilà quelqu'un qui massacra énormément. Ce fut avec lui un bain de sang partout. Lorsqu'il arriva à Jérusalem, les Juifs en avaient été réellement effrayés parce qu'ils avaient eu ouï dire de ces massacres partout où ils pouvaient proposer la paix. Mais si la paix ne lui était pas accordée, alors il rasait tout devant lui. Il installa une structure grecque païenne en Israël pour gouverner la Palestine. Et pour ce qui nous concerne, cet homme devrait nous renseigner déjà sur ce que sera l'Antéchrist au plan militaire, dominant sur toute la terre. Voilà donc de quoi la Lettre nous parle, Alexandre le Grand. Tout d'abord un génie, mais un homme aussi remarquable au plan militaire. Et la Bible nous fait savoir qu'il en sera ainsi de l'Antéchrist. En Daniel 8:8, quatre grandes cornes s'élevèrent après lui pour tenter de le remplacer. Alors, ces quatre grandes cornes ont représenté ces quatre généraux qui s'étaient partagé son empire. L'histoire vérifie cela. Alors, Daniel, quel homme de Dieu! Tellement de temps! Alexandre le Grand n'était pas encore venu au monde. Daniel parlait de cet homme. C'est fou! Comme d'une corne très puissante, là, au milieu des yeux de ce bouc. Et il avait annoncé même que quatre généraux s'empareraient de son empire pour se le partager. Et voyez-vous, ces quatre généraux n'avaient pas fait le poids. Ils avaient été loin d'être cet Alexandre le Grand. Et ils durent palabrer, discuter, se chamailler, même se battre, pendant 22 ans après Alexandre pour en arriver au partage, justement, de son empire. 22 ans. Des généraux, des hommes qui n'étaient pas bêtes et qui avaient entouré Alexandre le Grand. C'est vous dire à quel point Alexandre les dépassait non seulement d'une tête, mais encore de plus que cela. À l'ouest, ce fut Cassandre, général Cassandre, qui régna sur la Macédoine, la Grèce et l'Europe. Et ces quatre généraux, justement, représentaient ces quatre vents des cieux autour de la Méditerranée. D'ailleurs, ceci est expliqué en Daniel 8, si nous voulions jeter un œil. Hein. Au verset 8, quatre grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer, cette corne brisée, celle d'Alexandre le Grand, aux quatre vents des cieux. Donc, ces quatre vents des cieux, disons, étaient une autre métaphore de ces quatre généraux, donc de ces quatre cornes. Cassandre, disais-je, avait régné sur la Macédoine, la Grèce, l'Europe, l'Isimaque, au nord, la Thrace, la Bithynie, l'Asie mineure, Séleucus à l'est, la Syrie, Babylone, la Perse, le général Séleucus, Séleucos, et Ptolémée au sud, l'Égypte, Israël, l'Arabie. Voilà donc comment ces quatre généraux se partagèrent l'empire de la première corne, 22 ans après cette disparition. Mais alors, nous est-il précisé que, au verset 9, que l'une de ces quatre cornes sortit une corne. Alors nous allons reprendre ce texte pour les avoir à l'esprit. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Ah voilà, je vous le disais tout à l'heure. Il s'agit à présent d'Israël au regard de ses puissances. Et c'est une raison qui explique pourquoi ce retour à l'hébreu à partir du chapitre 8. Et jusqu'au bout, il est question justement d'Israël au regard de ses puissances. Alors cette petite corne sortie de ces quatre cornes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle sortit de l'Empire grec, Gardons ça à l'esprit. Hein? Parce qu'avec Alexandre le Grand, ce fut la Grèce. Le partage de son empire, quatre généraux grecs. Et cette petite corne sortant de ces quatre cornes, bien, un roi grec. Et cette corne eut des prétentions dans quelques autres directions pour s'en emparer. Mais elle crut du verbe croître très vite pour devenir une corne, une grande corne, une corne puissante. Il faut tout à fait la distinguer pour comprendre les textes de cette autre corne, petite, qui sortit des 10 cornes en Daniel 7, au chapitre précédent. Ces 10 cornes qu'avait cette bête indéfinissable qui venait de l'Occident, mais qui représentait Rome, les quatre empires, dans les quatre empires, Rome figurait. Dans ce que nous sommes en train d'expliquer, Rome n'est pas là. Hein. Il y a juste deux empires, Médo-Perse et Grec. Vous gardez ça à l'esprit. Alors nous comprenons ces visions, nous comprenons ces métaphores. Elle sortit de l'empire grec, mais elle ressemblait tellement à la petite corne qui était sortie de l'empire romain. Des 10 cornes, elle sort de 4 cornes. Et cette petite corne de Daniel 8 ne pouvait être un autre qu'Antiochus Épiphane. Hein, la peine à le dire. Hein. Oui, il fut donc annoncé ce tyran, cette petite corne qui crut d'ailleurs croître rapidement pour dominer bien des régions dans cet endroit du monde. Antiochus Épiphane régna de 175 à 164 avant Jésus-Christ. Il eut donc 11 ans de règne. Il n'avait eu aucun droit au trône. Il y accéda, nous faisons savoir les textes et l'histoire confirme, d'où la vérité de la parole de Dieu. Et il y accéda, j'allais dire, à la suite de l'assassinat de son frère, un certain Séleucus IV, Philopater. Mais à la suite de l'assassinat de son frère, normalement son neveu, du nom de Démétrius I Sauter, aurait dû hériter du trône. Bon, il faut dire que les Séleucus régnaient en Syrie. Mais ils étaient grecs, parce que la Syrie avait été conquise par la Grèce. Avec Alexandre le Grand, lorsque il bâtit les Perses. Ils étaient grecs, donc le royaume du Nord vis-à-vis d'Israël était un royaume grec. Souvent ceci échappe à nos esprits quand nous étudions la parole de Dieu. Et il est important de l'avoir constamment en tête quand nous étudions les prophéties. Alors, cet homme, qui ne représentait pas grand-chose pour commencer, et dont il est à nouveau question, je vous invite à lire le chapitre 11, on ne peut pas y revenir, à partir du verset 21, un homme méprisé prendra la place sans être revêtu de la dignité royale. Et il n'avait aucun droit au trône. Il était arrivé au trône, j'allais dire, comme par accident. Et il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue, ce qu'il fit. Tout à fait. Et il en est donc question encore plus loin dans le livre de Daniel pour préciser certaines choses quant surtout à sa dimension d'antichrist, d'antidieu, etc. Alors, cet Antiochus Épiphane, Antiochus IV, poussa vers le sud et put conquérir l'Égypte. L'Égypte des Ptolémées. Il poussa vers l'Est, alors nous faisons l'histoire, mais nous sommes obligés de faire l'histoire parce que Daniel fut un historien. Mais avant le temps, les historiens rapportent l'histoire après coup. Lui, il a pu la rapporter, j'allais dire, avant coup. En tant que prophète, nous sommes obligés de faire l'histoire quand nous étudions Daniel, quand nous étudions Ézéchiel, quand nous étudions certains prophètes C'est irrésistible. Si nous ne faisons pas d'histoire, nous ne pouvons rien comprendre au texte. Absolument rien. Et quand on étudie la prophétie, irrésistiblement, il faut en arriver à l'histoire. Et ce qui nous émerveille, c'est que l'histoire couramment confirme ce que la Bible avait écrit à l'avance. Il poussa vers l'Est, vers la Mésopotamie, il poussa vers l'Arménie, et Israël, il faut le savoir aussi, parce que ces quatre rois, très souvent, se firent la guerre. Ça ne s'était pas passé dans l'harmonie. Je vous ai dit 22 ans pour diviser le royaume d'Alexandre le Grand en quatre empires. Hein. Bon, mais les Ptolémées avaient reçu en héritage Israël. Ils régnaient sur Israël. Ça n'avait pas plu à Antiochus Épiphane. Alors, dans une descente qu'il fit sur l'Égypte pour la conquérir, ben, au passage, surtout c'est son père d'abord, hein, son père qui avait pu, Antiochus III, conquérir Israël pour tenter de s'emparer de l'Égypte. Et Antiochus Épiphane, après lui, fut même appelé roi d'Israël. Roi d'Israël, Antiochus Épiphane. En cela, il fut un type de l'Antéchrist, parce que le véritable roi d'Israël ne fut pas un roi païen, ce qu'il dit de païen, mais le véritable roi d'Israël fut David. David aussi dans sa projection, j'allais dire, David en Christ. Et cet Antiochus Épiphane, en ayant poussé justement vers Israël, à la suite de son père, entreprit d'héléniser, de rendre grec Israël. Ceci avait été sa vision. Alors si Alexandre le Grand nous entretient de cet aspect génie que sera l'Antéchrist, le dernier qui doit venir, Antiochus Épiphane, pour sa part, nous parle de ce même Antéchrist dans sa dimension non seulement de tyran, mais dans sa dimension religieuse. Je vais vous lire quelques extraits justement du livre des Maccabées à cet égard. Il se proclama, je vous l'ai dit, le roi d'Israël. Et il est curieux que Antiochus Épiphane laissa la paix à la Mésopotamie, la paix à la Syrie, la paix à d'autres régions du monde qui étaient des régions païennes, tandis que même la paix à l'Égypte, dont il avait pu prendre pour lui tellement de richesses, tandis que pour ce qui fut d'Israël, pas du tout, Israël adorait l'Éternel, hein, il s'en était pris à Israël de façon toute spéciale, pour l'héléniser, pour la rendre païenne. Et à cet égard, justement, je vous le disais, nous allons lire quelques textes, parce qu'il écrit tellement petit dans cette Bible, c'est la Bible, disons, œcuménique. Et elle contient donc certains livres, les livres apocryphes en général. Je crois qu'il est intéressant que nous penchions sur les livres apocryphes. Je le disais dès le premier soir, ils ne sont pas inspirés, mais au plan historique, ils sont vraiment excessivement précieux. Alors, bon, les catholiques l'ont dans leur Bible, nous ne les avons pas dans nos Bibles, simplement qu'ils ne figurent pas dans le canon juif de l'Ancien Testament, bien entendu. Ils ne figurent pas. Les Juifs n'ont pas considéré, par exemple, entre autres, ce livre des Maccabées, ces livres, comme étant inspirés de Dieu. Ceci nous a aussi poussé à ne pas les considérer comme tels. Alors voilà ce que rapporte, pour ceux qui auraient le livre des Maccabées sous les yeux, au chapitre 1er, le règne d'Alexandre le Grand, après qu'Alexandre, fils de Philippe de Macédoine, sorti du pays des Kittims, et qu'il eut battu Darius, nous disions, roi des Perses et des Mèdes, il fut devenu roi à sa place, tout d'abord sur l'Hélade. Bon, l'Hélade des contrées tout proche de la Grèce. En tout cas, même les contrées de la Grèce, parce qu'il y eut quand même là conflit, même du temps de son père, entre la Macédoine et la Grèce. Et le père d'Alexandre le Grand avait voulu annexer la Grèce, qui ne faisait pas partie de la Macédoine. Et Alexandre le Grand, lui, avait continué dans le sens de son père, pour faire de la Grèce et de la Macédoine la puissance d'alors. Il poussa jusqu'au bout du monde, il prit les dépouilles d'une multitude de nations. La terre se tut devant lui. Vous vous rendez compte ce que dit le livre des Maccabées? Son cœur s'exalta et s'enfla d'orgueil. Il rassembla une armée très puissante et soumit provinces, nations, dynasties qui durent lui payer tribut. Après cela, il s'habita et comprit qu'il allait mourir. À Babylone, justement. Il convoqua ses officiers nobles, ce dont nous avons parlé tout à l'heure, ceux qui avaient été élevés avec lui depuis sa jeunesse, et partagea entre eux son royaume avant de mourir. Mais là, il faut dire qu'il y eut plus que ces quatre généraux, il n'y en eut d'autres. Et c'est après bien des années, comme je me rappelais tout à l'heure, que pour finir, le royaume fut partagé en quatre. Voilà. Et puis, nous en arrivons alors plutôt à Antiochus Épiphane. Voilà ce que dit le livre des Maccabées, au verset 10, cette fois du chapitre 1er du premier livre. Il sortit d'eux un rejeton impie, Antiochus Épiphane, fils du roi Antiochus, qui après avoir été otage à Rome, parce que n'oublions pas que pendant que Antiochus Épiphane s'évertuait à conquérir des terres, des pays autour de lui, Rome était en pleine ébullition et donnait déjà du fil à retordre, non seulement Antiochus Épiphane, au niveau des frontières de son empire, mais aussi du côté de l'Ouest. Et le père même d'Antiochus Épiphane avait été battu par les Romains vers une frontière grecque à l'Ouest. Et quand les Romains avaient cette coutume, quand ils battaient par exemple lors de guerres comme ça des Grecs, ils imposaient une vingtaine d'otages. Et ces otages, dans ces otages, il devait se trouver des personnalités très proches du roi qui a été battu. Et Antiochus III, le père d'Antiochus Épiphane, avait été donc battu par les Romains. Et il avait dû céder à Rome Antiochus Épiphane, qui resta 15 ans otage à Rome, avant de revenir dans son pays. Toute cette allusion, n'est-ce pas? Antiochus Épiphane avait été otage à Rome, devint roi en l'an 137 de la royauté grecque. En ces jours-là, des Vauriens surgirent d'Israël, et ils séduisirent beaucoup de gens en disant « Allons, faisons alliance avec les nations grecques donc, qui nous envahissent, avec ce roi impudent, Antiochus Épiphane, car depuis que nous sommes séparés d'elle, bien des mots nous ont atteints. Ce discours plut à plusieurs dans le peuple juif, et ils s'empressèrent de se rendre auprès du roi, qui leur donna l'autorisation d'observer les pratiques des nations. C'est ça l'apostasie. Quand l'Église commencera à accepter les pratiques des nations, qu'elle connaîtra l'apostasie, et je peux vous dire que nous y allons, à fond déjà. Selon les usages de celle-ci, ils bâtirent donc un gymnase à Jérusalem. Alors, ils se refirent le prépuce. Vous savez que le judaïsme recommandait avec insistance la circoncision. Eh bien, pour ces juifs qui étaient circoncis, on leur accordait de pouvoir se faire opérer pour ôter toute trace de circoncision. Antiochus Épiphane avait été jusque-là, imaginez. On voulait absolument ôter toute trace des ordonnances du Seigneur. Voilà pourquoi ce livre est très intéressant à lire pour se rendre compte de l'antichrist qu'a pu représenter ce roi impudent. Puis ensuite, quand il vit son règne affermi, Antiochus se projeta de devenir roi d'Égypte, afin de régner sur les deux royaumes. Il avait eu cette pensée de reconquérir en fait tout ce qui appartenait à Alexandre le Grand. Alors un peu plus loin, ce qu'il a fait en Égypte ne nous intéresse pas. De là, il revint sur Jérusalem avec une armée imposante. Entrer dans le sanctuaire avec arrogance, c'est une des caractéristiques, l'arrogance hein, de l'Antichrist, qui est rappelée en Apocalypse 13, nous l'avons vu, il prit l'autel d'or, le candélabre de lumière et tous les accessoires, la table d'oblation, les vases à libation, les coupes, les cassolettes d'or, le voile et les couronnes. Quant à la décoration d'or sur la façade du temple, il l'enleva en entier. Il prit aussi l'argent, l'or, les objets précieux. Il fit main basse sur les trésors cachés qu'il trouva. Ayant tout pris, il s'en alla dans son pays. Il avait fait un peu comme Nebuchadnezzar. Mais il fit, avant de quitter ce pays, un véritable carnage et avait proféré des paroles d'une extrême arrogance. Alors, je vous disais hier, à propos de Qumran, que Qumran a pu exister en raison d'Antiochus Épiphane, parce que ses façons d'agir à l'égard d'Israël avaient suscité une résistance, un peu comme nous l'avons connu, nous, en France, du temps des Allemands. Une résistance avec surtout un certain Judas Maccabée, qui en était arrivé même à reconquérir le temple, et puis ensuite le pays d'Israël. Mais dans un premier temps, Antiochus Épiphane avait été tellement dur, violent, que beaucoup de ces juifs qui n'avaient pas voulu pactiser avec le paganisme durent quitter la ville sainte et même Israël pour se retrouver dans le désert. Et certains s'étaient réfugiés à Qumran. Et je vous disais hier, on a retrouvé à Qumran, dans les grottes 1, 4, 6, 11, des textes de Daniel, en abondance des manuscrits. Pourquoi? Parce que les Maccabées, parce qu'il s'agissait d'eux, hein, ce fut la résistance contre Antiochus Épiphane, les Maccabées s'étaient réfugiés là et avaient réalisé que Daniel avait parlé d'eux de façon tellement claire, précise. Ceci les avait encouragés. Et qu'il avait aussi parlé de celui qui les persécutait, Antiochus Épiphane. Les Maccabées avaient compris cette petite corde, vous savez, qui devait régner sur le pays d'Israël. Voilà de quelle façon nous devons, nous aussi, comme les Maccabées, qui ont été quand même de témoins remarquables, je n'ai pas le temps de revenir sur cela, ils sont appelés, là, comme je le disais hier, les masculines. Les masculines dans le texte hébraïque, qui signifie des gens sages, des hommes, des témoins, qui étaient pour la vérité, pour la justice, et qui avaient refusé de se souiller absolument, qui avaient préféré mourir que, précisément, d'offrir un culte à Jupiter, dont la statue avait été dressée dans le Saint des Saints, par Antiochus Épiphane. Et puis, les ruses, là nous allons aussi comprendre pourquoi il y a une figure de l'Antéchrist qui procédera de la même façon. Deux ans après, le roi renvoya un percepteur dans les villes de Juda, il vient à Jérusalem avec une armée imposante, ce percepteur. Il adressa aux habitants de fausses paroles de paix. Quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. Voilà ce qu'avait fait Antiochus Épiphane avec les juifs de son temps. Puis, une fois la paix acceptée, bien, il se jeta sur la ville à l'improviste, lui portant un coup fatal. Et fit périr énormément de gens en Israël. Il pilla la ville, l'incendia, détruisit les maisons et l'enceinte. Il réduisit en captivité les femmes et les enfants et s'approprièrent le bétail. Mais c'est tout à fait ce que fera l'Antéchrist. La Bible dit même qu'il détruira les deux tiers des enfants d'Israël, au livre de Zacharie, le prophète. Et qu'il sera beaucoup plus impitoyable qu'Antiochus Épiphane. Et pourquoi ai-je eu à cœur que nous nous intéressions à ce genre de corne? Parce qu'il nous donne une idée de ce que sera celui qui vient. Ce ne sera pas du tout facile pour le monde. Des temps de détresse dilatés comme le monde n'en a jamais connu. Non seulement contre Israël, mais c'est-à-dire contre le monde tout entier. Alors, ensuite, Antiochus interdit la religion juive, comme bientôt la religion chrétienne sera interdite par l'Antichrist. Il faut se faire d'illusions. Mais je crois, je suis de ceux qui pensent, j'espère que je ne me trompe pas, mais il faut rester très prudent quand on va t'expliquer la prophétie. Je pense néanmoins que nous serons enlevés avant que l'Antéchrist n'impose sa religion mondiale au monde comme le fit Antiochus. Écoutez la suite. Le roi ordonna que dans tout son royaume, tous ses peuples, non seulement l'Israël, mais ailleurs aussi, n'en forment plus qu'un et renoncent chacun à ses coutumes. Exactement ce que fera l'Antéchrist. Toutes les nations, Apocalypse chapitre 13, hein, avec la bête, la deuxième bête, qui justement poussera tous les hommes à adorer la première bête. Toutes les nations se conformèrent aux prescriptions du roi. Beaucoup d'Israélites acquiescèrent volontiers à son culte. Pas oublier que bien des Juifs avaient accepté de se soumettre. C'est comme ça que l'apostasie d'Antiochus Épiphane était entrée au sein du peuple d'Israël, sacrifiant aux idoles et profanant le sabbat. Le roi envoya aussi à Jérusalem, aux villes de Juda, des lettres par messagers, leur prescrivant de suivre des coutumes étrangères au pays, de bannir du sanctuaire holocauste, sacrifice et libation, de profaner sabbat et fêtes, de souiller le sanctuaire, et les choses saintes, d'élever autels, sanctuaires et temples d'idoles, de sacrifier des porcs et des animaux impurs, sur les autels donc, de laisser leurs fils incirconcis et de se rendre abominables par toutes sortes d'impuretés, de profanations. Voilà ce que la Bible appelle la véritable apostasie. Et altérant toutes les pratiques de la loi de Moïse, quiconque n'agirait pas selon l'ordre du roi serait mis à mort. C'est dans ces termes que le roi écrivit à tous ses sujets. Il créa des inspecteurs pour tout le peuple et ordonna aux villes de Juda d'offrir des sacrifices dans chaque ville. Des sacrifices de porc. Maintenant, c'est ce que pouvait représenter le porc aux yeux d'Israël. Beaucoup de gens du peuple. Entendons tous ceux qui abandonnèrent la loi. Se radièrent à eux, ils firent du mal dans le pays, et contraignirent Israël à se cacher dans tous les lieux de refuge, en particulier dans les grottes de Qumran. Les livres de la loi qu'ils trouvaient étaient déchirés puis jetés au feu. Or Daniel nous dit quoi ici, en chapitre 8 ? Il jeta la vérité par terre. Voilà. L'armée, verset 12, hein. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel, c'est tout à fait ça, à cause du péché. La corne jeta, c'est lui, jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Et les textes ici disent les livres de la loi qui se trouvaient là furent jetés au feu. S'il parvenait à découvrir chez quelqu'un un livre de l'Alliance, et si quelqu'un se conformait à la loi, le décret du roi causait sa perte, il sévissait chaque mois contre ceux d'Israël qui avaient été pris en infraction. Le 25 du mois, on sacrifiait sur l'autel des holocaustes, des porcs. Les femmes qui avaient circoncis leurs enfants étaient conformément au décret mis à mort et leurs nourrissons vendus à leur cou. Mais avant de les mettre à mort, ces femmes devaient parcourir toute la ville de Jérusalem avec leurs enfants égorgés à leur cou. Ainsi que leurs proches et ceux qui avaient opéré la circoncision. Toutefois, plusieurs en Israël restèrent fermes, toujours un reste, et eurent la force de ne pas manger des choses impures. Ils acceptèrent de mourir plutôt que de consommer des mets impurs et de profaner l'Alliance sainte. Ils moururent. Ce furent des jours de grande colère sur Israël. Et Jésus a parlé aussi de grande colère sur le peuple saint. Et c'est alors qu'un certain prêtre du nom de Mathathias avait réagi. Et que, après lui, un certain Judas Maccabée. Mais je voudrais encore vous lire, avant que nous terminions et que nous parlions un peu de notre actualité vis-à-vis de ce que nous venons d'entendre, parce que nos temps sont sérieux. Alors, j'ouvre maintenant l'écriture au deuxième livre des Maccabées. Avec l'avènement de ce grand prêtre du nom de Jason, un juif, qui avait pactisé avec Antiochus Épiphane et qui avait été souverain sacrificateur. Et c'est comme ça que, dans ce même temps, l'apostasie avait cru, il devait croître évidemment, c'est le plus, quatre donc Épiphane, ayant quitté cette vie, c'est le plus ayant quitté cette vie, le frère d'Antiochus qui avait été assassiné. Antiochus, surnommé Épiphane, lui ayant succédé sur le trône, Jason, frère d'Onias, usurpa le pontificat, ayant promis au roi, au cours d'une entrevue, Épiphane, 360 talents d'argent et 80 talents à prélever sur quelques autres revenus. Il s'engageait en outre à faire inscrire à son compte 150 autres talents, s'il lui donnait le pouvoir d'établir un gymnase et une éphèbe contiguë au temple, au sein des saints. Un gymnase. Alors, les notes ici disent que le gymnase réunissait des jeunes, les phébies représentaient un groupe de jeunes qui se réunissaient régulièrement pour des exercices sportifs. Mais généralement, ces exercices se pratiquaient nus. Les jeunes qui venaient se recouvraient le corps d'une huile par un spécial, tout simplement, et ils se livraient à toutes sortes d'exercices physiques nus, le texte le précise. Imaginez, tout à côté du Saint des Saints, et quel affront à l'Éternel lui-même. Quand nous savons ce que la Bible enseigne à propos de la nudité de l'homme qui doit être protégé. Mais ce genre d'exercice se terminait de façon très misérable, disent les textes. Les phébies, en général tournaient en homosexualité. Et ceci toujours tout près du Saint des Saints. Il y avait dans ce gymnase des statues de divinités grecques. Mais ce Jason avait accepté que fût érigée dans le Saint des Saints la statue de Zeus Olympien, c'est-à-dire la statue de Jupiter, dominant, oui, le Saint des Saints. Le roi ayant consenti, Jason, dès qu'il eut saisi le pouvoir, amena ses frères de race, les Juifs, à échanger leur façon de vivre contre celle des Grecs. Il supprima les franchises que les rois, par humanité, avaient garanties aux Juifs. Il y avait quand même, précédemment, des endroits où les Juifs pouvaient se rendre pour l'exercice de leur culte en toute liberté. Il les avait supprimés. Puis d'autres franchises également. Parce qu'ils étaient juifs, les autres rois en Grèce avaient précédemment, comme Cyrus, Assuérus, Artaxerxès, etc., avaient accepté, j'allais dire, d'autres que les juifs aient pu exercer leur culte de façon assez libre, mais dans certaines régions. Voyons. Alors ce Jason détruisit les institutions légitimes et inaugura des usages contraires à la loi. Il se fit plaisir en construisant justement un gymnase, au pied de l'acropole. Il conduisit les meilleurs des éphèbes dans cet endroit. L'hellénisme et la pénétration étrangère atteignirent un tel degré, par suite de l'excessive perversité de Jason, l'impie et non un grand prêtre, que les prêtres ne montraient plus aucun empressement pour le service de l'autel. et à leur tour, ils versèrent justement dans l'apostasie. Et puis, après tout cela, Antiochus revint à Jérusalem, et lorsqu'il y entra, il reçut un accueil absolument remarquable de la part des Juifs qui avaient versé dans l'apostasie. Bien, c'est tout à fait ce que la Bible nous fait savoir de l'Antéchrist qui doit arriver, qui ira jusqu'à se placer dans le temple de Dieu, s'asseoir comme Dieu lui-même, et même au-dessus de Dieu, dans le temple de Dieu lui-même, lequel, nous le pensons, sera reconstruit dans la première partie de son règne, quand il apparaîtra. Alors, il faut aussi savoir que cet Antiochus Épiphane fut un prototype de l'Antéchrist, parce que 126 pièces de monnaie furent retrouvées dans, disons, son ancien royaume par nos historiens, nos archéologues. Et sur chacune de ces pièces, il avait fait graver ce qui suit. Théos Antiochus Épiphane. Ce qui signifie en grec Antiochus manifesté comme Dieu. Le mot Théos, comme vous le savez, signifie Dieu en grec. La Bible nous renseigne sur le fait que l'Antéchrist lui-même se dira Dieu. Aux yeux du monde entier, il se proclamera Dieu lui-même, et ce, disons bien, à Jérusalem, à la place du vrai Dieu, c'est-à-dire à la place du Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. À propos de Alexandre le Grand, un certain Charles Ross Weed, dont j'ai eu la copie d'un document, a pu dire ce qui suit en le comparant au Christ. Jésus et Alexandre sont tous deux morts à l'âge de 33 ans. Alexandre a vécu et a décédé pour lui, pour sa propre gloire. Jésus a vécu et est mort pour nous. Le grec est mort sur un trône. Le juif sur une croix. L'un a semblé triompher, l'autre a semblé avoir perdu. L'un a lancé ses armées par toute la terre, l'autre a marché seul. L'un a versé le sang du monde entier, l'autre a versé son propre sang. Alexandre le Grand et Jésus-Christ sont tous deux morts à l'âge de 33 ans. L'un est mort à Babylone, l'autre est mort Jérusalem. L'un a œuvré pour lui en égoïste, l'autre a œuvré pour les autres. L'un s'est fait lui-même Dieu, l'autre, de Dieu qu'il était, s'est fait lui-même homme. Je trouvais ça tout à fait remarquable. L'un est mort pour toujours sur son trône, Alexandre le Grand. L'autre est mort au calvaire pour vivre à jamais. Mais en Seigneur, les Seigneurs, le grec a fait de tous les hommes des esclaves. Le juif est venu pour libérer ses esclaves. L'un a bâti son trône sur le sang, l'autre a bâti son trône sur l'amour. Alexandre le Grand et Jésus-Christ sont tous deux morts à l'âge de 33 ans. Mais il est comme un. C'est peut-être différent, hein, selon qu'on ne pense qu'à soi. Selon qu'on ne pense qu'aux autres, ce qui fut le cas de Christ. En ce qui nous concerne aujourd'hui, où en sommes-nous quand justement à l'Europe, en marche, ce sera la conclusion, quant aussi à la conjoncture mondiale, laquelle passe par les tempêtes que vous savez et que nos médias nous rapportent alors qu'il est sans cesse. Je cite. Il faut savoir que les grandes crises du passé ont toujours fait appel à des hommes d'une dimension exceptionnelle pour les résoudre. encore pas tellement loin de nous, à propos de la dernière guerre mondiale, il a fallu des hommes comme De Gaulle pour la France, Churchill pour l'Angleterre, etc., lesquels ont été quand même des hommes d'une grande dimension au plan politique, et sitôt leur mission accomplie, bien, ils étaient retournés dans l'incognito, en tout cas pour le général De Gaulle, et même pour Churchill, parce que l'Angleterre n'en a plus voulu après la guerre. Nos grandes crises appellent un homme. Et hier, je vous entretenais de certains Hollande Spark, n'est-ce pas, qui fut ministre en Belgique, et qui fut aussi l'un des initiateurs de l'Europe à l'origine. Un homme dont on ne parle plus maintenant, parce que mais il est âgé. Je ne sais même pas s'il est décédé, je ne me souviens pas, je ne pense pas. Je n'ai pas entendu parler. Mais voilà quelqu'un qui a dit ce qui suit, il y a quelques courtes années, l'Europe ne pourra résoudre ses problèmes à force de comités, à force de commissions. Alors qu'il est, il nous faut un homme. Est-ce que je prie avec moi de le citer avec exactitude, mais sinon je le citerai en substance. C'est tellement frais dans mon esprit. Non, je ne pense pas. Enfin, c'est peut-être. J'ai tellement de notes, hein, vous le voyez. Vous voyez, j'ai passé toute la journée à revoir ça. J'aurais été incapable de vous donner cette étude si je n'avais pas revu, pendant toute la journée. Bon, je n'ai pas ici. Je me regrette beaucoup. Mais voilà ce qu'il y a à dire en substance. Il nous faut maintenant un homme d'une dimension exceptionnelle, au plan politique, au plan économique, qui puisse nous tirer de la crise, qui puisse mettre en place cette Europe tant souhaitée. Un homme qui, qu'il soit un civil ou un militaire, peu importe, de quelque race qu'il peut être, il nous faut un homme. Nous voulons un homme d'une dimension exceptionnelle. Et d'ajouter encore ce qui suit, qu'il soit Dieu ou diable, peu importe, pourvu qu'il soit l'homme de la situation. Voilà donc un homme politique qui, quand même, a dit des paroles pour lesquelles il est important que nous réfléchissions sérieusement. Il y a un mois paraissait donc un article assez remarquable dans cet hebdomadaire, l'événement du jeudi. Aujourd'hui la crise, demain les démagogues. Aujourd'hui la crise, voilà ce que ce journal, cet hebdomadaire a pu rapporté, il n'y avait alors en Allemagne, nous en dit-elle, que 1 million de chômeurs. Est-ce que vous en savez moins? Un petit agitateur d'origine autrichienne, Hitler Adolf, n'en lança pas moins son imparable syllogisme. 1 million de juifs d'un côté, 1 million de chômeurs de l'autre, chassons les juifs, et il n'y aura plus de chômage. Voilà, c'est ce fut sa devise, hein. Ce discours, à l'époque, restait encore marginal. En 6 ans, l'aggravation considérable de la crise économique le rendit d'abord audible, puis séduisant, et enfin acceptable. Vous savez, quand le monde vous parle de cette façon-là, il y a de quoi réellement frémir. Or, le monde, et singulièrement l'Europe, vient de nouveau d'entrer dans une zone de tempête. Il ne faut pas à cet égard se faire d'illusions. La crise frappe la plupart des pays industrialisés. Ceux qui avaient été jusque-là présents relativement épargné la France, n'est pas simplement de caractère conjoncturel ou cyclique, elle témoigne, comme dans les années 30, d'une profonde déstabilisation mondiale. Ou plus exactement, un faisceau de causes conjoncturelles, accumulation d'endettement, ampleur des déficits américains, entre autres coûts en capitaux de la réunification allemande, essoufflement de l'économie japonaise, nouveau dérapage de l'Amérique latine, s'ajoutant à cela les éléments suivants, les conséquences de catastrophes plus globales, naufrage du continent africain, effondrement de l'empire communiste, du gonflement des flux migratoires, des facteurs purement structurels, hypertrophie des endettements, manque de capitaux, mais accentuation par suite d'internationalisation des marchés financiers, de la mobilité des masses monétaires errantes, un total chambardement des équilibres économiques traditionnels par suite d'une double mutation technologique et géographique des industriels classiques qui constituaient le moteur de la croissance occidentale s'effondrent, ici parce qu'elles sont devenues caduques et obsolètes, là, parce que leur centre de gravité s'est déplacé vers les pays en voie de développement. En apparence, le cyclone économique est moindre que celui de 1929, politiquement moins redoutable, toujours apparemment, qu'en 1939. Mais, voilà la conclusion de cet article, sont réunis pour la première fois depuis un demi-siècle, depuis 50 ans, à la fois les conditions de 29 et de 39. Réellement trempé, hein. Alors, ce sont nos hebdomadaires qui jouent les prophètes de malheur. Alors, pour ne pas retarder, je pourrais encore vous lire certains passages, mais je préfère passer. Ils sont à votre disposition si vous vouliez consulter ces documents.